De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec le titre. L'Australie annonce un financement pour un partenariat sur le climat et les infrastructures. Un séisme d'une magnitude de 7,2 a secoué le Maroc, faisant 296 morts. L'Indonésie a exprimé son engagement en faveur de la stabilité et à la paix lors du sommet du G20. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé une initiative de deuxième phase de 150 millions de dollars australiens, soit environ 1,4 billion de roupies, pour le partenariat australo-indonésien sur le climat et les infrastructures, d'une valeur totale de 200 millions de dollars australiens. Selon une déclaration écrite de l'ambassade d'Australie à Jakarta vendredi, cette initiative s'ajoute à l'initiative de première phase de 50 millions de dollars australiens, soit environ 490 milliards de roupies, annoncée lors de la réunion annuelle des dirigeants austro-indonésiens en juillet 2023. Le financement de deuxième étape soutiendra la création d'un mécanisme bilatéral visant à faire progresser la collaboration dans l'écosystème de véhicules électriques dans le cadre du partenariat. Dans la deuxième phase de l'initiative, l'Australie contribuera 50 millions de dollars australiens pour réduire le risque de projets d'infrastructures privées afin de soutenir l'ambition de l'Indonésie vers le zéro carbone. Cela aidera l'Indonésie à obtenir le financement du secteur privé pour des projets à fort potentiel et à fournir des études de faisabilité et des évaluations environnementales pour soutenir le développement de projets. Un séisme d'une magnitude de 7,2 a secoué les montagnes de Haut Atlas au Maroc vendredi au soir heure locale, tuant au moins 296 personnes. Le séisme a également détruit divers bâtiments, oblige les habitants des grandes villes à sortir ces jours. Le ministère marocain à l'intérieur a déclaré que le nombre de morts pourrait augmenter. Un responsable régional local a déclaré que la plupart des personnes tuées se trouvaient dans des zones montagneuses difficiles d'accès. Les habitants de Marrakech, la grande ville la plus proche de l'épicentre du séisme, ont déclaré que des habitants s'étaient effondrés dans la vieille ville qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre du Commerce Zulkifli Hasan a accompagné le président indonésien Joko Widodo dans une mission de stabilité et de paix qui est prête à être accomplie lors du sommet du G20 qui aura lieu en lundi le 9 et 10 septembre 2023. Zulkifli Hasan, dans une déclaration écrite citée par Antara samedi, a déclaré que, comme l'a dit le président Joko Widodo, l'Indonésie porte un engagement en faveur de la stabilité et de la paix qui sera exprimé lors du sommet du G20 en Inde. L'Inde accueille le sommet du G20. Le sommet de deux jours a réuni un certain nombre de dirigeants de pays en forme. Sous la direction de l'Inde, ce sommet s'est concentré sur la discussion de la réforme de l'architecture de la dette internationale, des réglementations concernant les crypto-monnaies et de l'impact de l'Institut géopolitique sur la sécurité alimentaire et énergétique. Le gouvernement de la Corée du Sud a déclaré qu'il amènerait une équipe pour concentrer la coopération sur l'écosystème des véhicules électriques afin de soutenir la réalisation d'une Indonésie dorée 2045. La Corée collaborera dans le secteur industriel du futur, à savoir les voitures électriques. C'est ce qu'a déclaré vendredi le président sud-coréen Yoon Suk-yeol lors d'une réunion bilatérale avec le président Joko Widodo au palais présidentiel de Jakarta. Le président Yoon a souligné que la Corée du Sud souhaite coopérer davantage parce que l'Indonésie est un partenaire approprié. Il considère l'Indonésie comme un pays important dans la région de l'ASEAN car il donne la priorité à la liberté et à la paix. Il espère également que la solidarité de la Corée du Sud avec la région de l'ASEAN se poursuivra. La réunion bilatérale entre l'Indonésie et la Corée du Sud est également coïncide avec 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le président de l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs, ou HIPNI, M. Akbar Himawan Bukhari, a apprécié le président Joko Widodo, qui génère un engagement dans des projets de coopération d'une valeur de plus de 500 000 milliards de roupies lors de l'organisation du 43e sommet de l'ASEAN. Akbar Himawan, dans une déclaration écrite samedi à Jakarta, a estimé que l'Indonésie, en tant que président de l'ASEAN 2023, était un succès. Le sommet de l'ASEAN a reçu 93 projets de coopération d'une valeur de 38,2 milliards de dollars américains de la tenue du Forum Indo-Pacifique de l'ASEAN. Il a souligné la valeur de cette coopération est tout à fait fantastique. On espère que cette coopération sera bien réalisée afin que le peuple obtienne des résultats. Et Akbar a demandé que le succès de la tenue du 43e sommet soit véritablement ressenti par le peuple indonésien, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, afin que la croissance économique nationale continue de croître positivement. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues du district de Kupang, à l'est de Nusa Tenggara. L'Agence nationale de recherche et d'innovation, ou BRIN, étudie le potentiel du tourisme astronomique pour observer les phénomènes célestes à travers l'Observatoire national de Timau, situé à Amphuang, dans la région de Kupang, dans la province de Nusa Tenggara Est. M. Thomas Jamaluddin, le chercheur expert principal au Centre de recherche spatiale de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, ou BRIN, a déclaré vendredi que les études d'astronomie culturelle autour de l'Observatoire national de Timau étaient très nécessaires pour soutenir le tourisme astronomique avec une pollution lumineuse minimale. BRIN a construit l'Observatoire national à Amphuang parce que cet endroit offre les nuits les plus longues et les plus lumineuses, environ 70% de l'année. L'Observatoire national de Timau est un observatoire d'observation spatiale, donc les principales installations sont un télescope optique d'un diamètre de 3,8 mètres et un radiotélescope parabolique d'un diamètre de 20 mètres. L'installation dispose également de deux petits télescopes optiques d'un diamètre de 50 cm, d'une antenne dipôle et d'un magnétomètre. Le chef du Centre de recherche sur les manuscrits littéraires et les traditions orales de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, Sastri Sunarti, a déclaré que la région de Amphoang possède des traditions orales communautaires qui peuvent soutenir le tourisme astronomique à l'Observatoire national de Timor. Selon lui, ses connaissances culturelles en astronomie peuvent être utilisées comme capital pour soutenir le tourisme du ciel étoilé. Le développement du tourisme astronomique vise à préserver la beauté du ciel nocturne, notamment en régulant l'utilisation de la lumière, en réduisant l'éclairage ou en utilisant des abat-jour extérieurs. Les nouvelles suivantes sont venues de Makassar dans le sud de Sulawesi. La ville de Makassar dans le sud de Sulawesi accueille à nouveau une activité internationale, à savoir le forum de haut niveau de l'ASEAN sur le développement et le partenariat inclusif pour les personnes handicapées au-delà de 2025. Le maire de Makassar, Mohamed Ramdan Pomanto à Makassar, a salué jeudi chaque événement organisé à Makassar et tout préparé pour que la mise en œuvre des activités se déroule sans problème et laisse une bonne impression. Il a déclaré que les activités qui se tiendront du 9 au 13 octobre 2023 ont été directement examinées par le ministre des Affaires sociales, Madame Tri Risma Harini. Ce forum vise à identifier les défis dans la région en matière de renforcement du développement inclusif, de discuter des recommandations concrètes et de plans d'action pour accélérer la mise en œuvre du plan directeur de l'ASEAN pour 2025. Une autre activité vise à renforcer le développement et le partenariat inclusif en matière de handicap, l'autonomisation des personnes handicapées dans l'entrepreneuriat et de rétablissement et de renforcement de la résilience et à contribuer à la formulation d'un récit plus inclusif dans la vision de la communauté après 2025. Les dernières nouvelles viennent de Magetan, Java Oriental. Le régent de Magetan, Dr. Dr. Suprawoto, a inauguré jeudi la direction et les membres du Comité de communication numérique, ou KKD, de la Régence de Magetan pour la période 2023 jusqu'à 2025. Ce comité est chargé d'alphabétiser le public à l'ère de la numérisation. Il a déclaré avec la formation et l'inauguration du Comité de communication numérique, on espérait qu'il empêcherait et réduirait les canulars, les fausses nouvelles et les éléments indésirable lié au monde numérique à Magetan. Arif Rahman, président quotidien du Comité de communication numérique ou KKD de Java East, a déclaré que le Comité de communication numérique existe parce qu'il y a actuellement un flot d'informations préjudiciables ou de canulars. Selon Arif, il existe jusqu'à présent 17 du Comité de communication numérique de district dans la province de Java Oriental. Parmi eux, du Comité de communication numérique ont été nommés et 11 n'ont pas été nommés. La tâche de cette comité est d'alphabétiser la communauté de sorte que lorsqu'elle obtient des informations, elle ne les partage pas immédiatement, mais voit la véracité de l'information. Arif Rahman a demandé que le Comité de communication numérique de Magetan soit chargé de réaliser une synergie et de veiller conjointement à ce que le public puisse obtenir des informations précises, de qualité et éducatives afin d'accroître la maîtrise de l'information et l'alphabétisation numérique à la communauté. Les éléments du Comité de communication numérique de la Régence de Magetan proviennent du gouvernement de la Régence de Magetan, de la police de Magetan, Kodim 0804 de Magetan, de la base aérienne Iswayudi, du bureau du procureur de Magetan, du DPRD de Magetan, d'universitaires et d'organisations de médias de masse. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo. D'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et ses enregistrements dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Vous écoutez la voix de l'Indonésie à Jakarta, chers amis. Voici la rubrique L'histoire d'aujourd'hui. Le 9 septembre 1948 est l'ouverture de la première Semaine nationale du sport ou PON. La Semaine nationale du sport est une compétition sportive de niveau national en Indonésie qui a lieu tous les 4 ans. La Semaine nationale du sport de 1948 était la première édition qui s'est tenue dans la municipalité de Surakarta du 9 au 12 septembre 1948. Environ 600 athlètes ont participé à des compétitions dans 9 sports et ont concouru pour 108 médailles. Les participants n'étaient pas au niveau provincial mais au niveau de la ville ou régence et de la résidence. 13 participants y ont pris part. Le grand gagnant est la résidence de Surakarta avec un total de 36 médailles. Citant par kemdikbud.go.id, ce premier pont a pour mission de montrer aux autres pays que la nation indonésienne, malgré le rétrécissement de ses conditions régionales en raison de l'accord de Renville, peut encore se montrer capable d'organiser des événements sportifs à l'échelle nationale. La cérémonie d'ouverture a été dirigée par le président Sukarno et ensuite, sur la base du décret présidentiel numéro 67 de 1985, sa date d'ouverture, le 9 septembre, est célébrée chaque année comme la Journée nationale du sport. Le 9 septembre 1991, le jour de l'indépendance de Tadjikistan. La République du Tadjikistan est un ancien pays d'Asie centrale de l'Union soviétique, limitrophe de l'Afghanistan au sud, de la République populaire de Chine à l'est, du Kyrgyzstan au nord et de l'Ouzbékistan à l'ouest. Sa condition géographique est un plateau non bordé par la mer. La majeure partie de la population du Tadjikistan appartient au groupe ethnique tadjik de langue persane et partage son histoire, sa langue et sa culture avec l'Afghanistan et l'Iran. Après être devenu partie intégrante de l'Empire samanide, le Tadjikistan est devenu une république constitutive de l'Union soviétique au XXe siècle sous le nom de République socialiste soviétique du Tadjikistan. L'effondrement de l'Union soviétique a eu lieu en 1991 et le Tadjikistan est finalement devenu indépendant le 9 septembre 1991. Après son indépendance, le Tadjikistan a souffert d'une guerre civile qui a duré de 1992 jusqu'à 1997. Le 9 septembre 2004, est l'explosion d'une bombe devant l'ambassade d'Australie à Jakarta. Une bombe a explosé devant l'ambassade d'Australie sur Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta, le 9 septembre 2003. L'incident également connu sous le nom d'attentat à la bombe de Kuningan. Était le troisième acte terroriste majeur en Indonésie après la bombe de Bali en 2002 et celui de l'hôtel Marriott en 2003. La partie indonésienne a réussi à identifier 9 personnes décédées et 160 personnes ont été blessées. Parmi les victimes décédées figuraient des agences de sécurité de l'ambassade, des demandeurs de visa, du personnel de l'ambassade et des résidents qui se trouvaient sur les lieux lorsque la bombe a explosé. Au centre de l'explosion, on a été trouvé un trou d'environ 2 mètres de diamètre avec une profondeur de moins d'un mètre. L'explosion de la bombe a également endommagé plusieurs bâtiments situés à environ 300 mètres des lieux. Chers amis, c'était la rubrique « L'histoire d'aujourd'hui » de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Ku tak percaya. istimewa tapi kamu bilang cinta itu bisa hilang kemana perginya akankah berakhir jadi
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter l'Indonésie se déclare prête à fournir des batteries de véhicules électriques aux États-Unis. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ont tenu une réunion bilatérale en marge du sommet de l'ASEAN mercredi à Jakarta Convention Center. Cette réunion a discuté du renforcement de la coopération économique entre les deux pays dans le cadre d'un partenariat stratégique. Le président Joko Widodo a exprimé sa haute appréciation pour la volonté de la vice-présidente Kamala Harris de participer au sommet de l'ASEAN. Citant par econ.go.id, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que l'Indonésie était un partenaire important pour les États-Unis parce que les deux pays avaient de longues relations diplomatiques entrant dans 73 ans. L'Indonésie contribue également à créer la prospérité et la sécurité pour les États-Unis et les pays de la région Indo-Pacifique libre et ouverte. La vice-présidente Kamala Harris a apprécié tout le travail acharné de l'Indonésie pour la tenue réussie du sommet de l'ASEAN et son rôle en tant que président de l'ASEAN 2023. La vice-présidente a également exprimé sa confiance dans le renforcement du partenariat entre l'Indonésie et les États-Unis. Les États-Unis sont fiers de nos relations solides et croissantes en tant que deux plus grands pays de démocratie du monde. Je suis convaincu que notre partenariat se renforcera dans les années et décennies à venir. La réunion bilatérale a discuté des sujets économiques, entre autres liés au cadre économique Indo-Pacifique et aux minéraux critiques. Le président Joko Widodo a souligné que le cadre économique Indo-Pacifique devait être en mesure d'apporter de réels avantages à ses membres, notamment grâce à la coopération en matière de chaînes d'approvisionnement convenues lors de la réunion ministérielle du cadre économique Indo-Pacifique à Détroit aux États-Unis en mai 2023. À propos des minéraux critiques, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était prête à faire partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale des États-Unis, y compris en établissant un partenariat avec les États-Unis pour les produits semi-conducteurs. En réponse à la politique de la loi sur la réduction de l'inflation, le président Joko Widodo a exprimé l'espoir que la politique de la loi sur la réduction de l'inflation pourrait faciliter les opportunités de collaboration avec toutes les parties, en particulier pour les pays partenaires du cadre économique Indo-Pacifique, afin de profiter des subventions vertes de la loi sur la réduction de l'inflation pour le minéraux critique. À cette occasion, le président a de nouveau assuré aux États-Unis que l'Indonésie est le plus grand producteur et propriétaire de réserves de nickel au monde, avec des réserves de nickel atteignant 21 millions de tonnes afin que l'Indonésie puisse devenir un fournisseur de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. L'Indonésie invite les États-Unis à discuter de leur formation d'un accord sur les minéraux critiques. Cette déclaration peut convaincre les États-Unis du grand potentiel de coopération économique entre les deux pays et en même temps inviter un certain nombre d'investisseurs étrangers américains à travailler sur le secteur du nickel en Indonésie. La réunion bilatérale a également discuté de la question du partenariat pour une transition énergétique juste. L'Indonésie a exprimé l'espoir que les États-Unis pourront respecter leur engagement d'investissement de 20 milliards de dollars qui mobilisera d'importantes quantités de financement public et privé pour soutenir la transition énergétique de l'Indonésie et une croissance économique adaptée au climat. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terima kasih.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel intitulé Le Sate Kere, en provenance de la ville de Solo. Le Sate Kere est l'un des plats typiques de la ville de Solo, donc la matière première est le tempeh gembus. Tempeh gembus est du tempeh fabriqué à partir de restes de tofu fermenté ou de restes de fabrication de tofu. Cette nourriture est l'un des délices culinaires typiques de la ville de Solo et très populaire auprès du public. En fait, cette nourriture est devenue l'une des cibles des touristes extérieurs à Solo. Son nom unique s'avère être une histoire sur les luttes populaires à l'époque coloniale. Kere en japonais signifie « pauvre » ou bien « sans argent ». En effet, pendant l'occupation néerlandaise, le prix des ingrédients nécessaires à la fabrication du saté, comme la viande, était très élevé, de sorte que les autochtones ne pouvaient pas se le permettre. Grâce à sa créativité, il a remplacé la viande par l'ali de tofu comme ingrédient pour faire du saté, appelé saté kere. Même si la matière première du saté kere est fabriquée à partir de restes de la fabrication du tofu, le saté kere a un goût distinctif et délicieux. De sorte que le saté kere est désormais devenu un aliment incontournable pour les touristes venant de l'extérieur de la région de Solo. Le tempeh gembus est grillé puis arrosé de sauce au arachide ou bien de sauce soja, faisant du saté kere un plat délicieux et savoureux, mais à un prix bon marché. Il serait dommage de voyager dans la ville de Solo, au centre de Java, sans goûter le saté kere, qui se vend environ 20 000 rupiah pour une portion, contenant 10 brochettes de saté kere, car les vendeurs de saté kere sont très difficiles à trouver dans d'autres régions. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Jalan derita tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Oh 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 oh, janganlah engkau menghancurkan segala setelah lawan kita mengarungi bersama. Kita yang suci di lambung ombak garam di lautan berduri hanya. sejak dulu lagi. Pengorbanan tiada pernah jemu.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le Festival international de la photo de Jakarta 2023. Le Festival international de photo de Jakarta 2023, en tant que Festival international du sous-secteur de la photographie, aura lieu du 9 au 24 septembre 2023, dans plusieurs endroits de la région de Blok M à Jakarta. Le ministre du Tourisme, M. Sandiaga Uno, lundi à Jakarta, a déclaré que le Festival international de photo de Jakarta est une plateforme permettant aux photographes et au public de se rencontrer, de dialoguer et d'échanger des histoires, ainsi qu'une arène permettant aux œuvres photographiques d'atteindre un large public. Le festival est également un événement inclus pour la deuxième fois dans le cadre du Charisma Event Nusantara du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative. Le ministre Sandiaga espère que la tenue de cet événement pourra devenir un moteur économique grâce au mouvement des touristes vers les destinations. On espère que la mise en œuvre du festival pourra faire découvrir les attractions touristiques de Jakarta du sous-secteur de la photographie. Le directeur du Festival international de photo de Jakarta 2023, Christian Rahadiansyah, a déclaré que cette activité aura lieu dans 7 lieux répartis dans la région du Bloc M. Les sept lieux comprennent M Block Space, le théâtre Bulungan, Kala Kalijaga, Kala Karya, la Mandau House, Lokaholic et Mall Block M. Il y aura divers événements intéressants à visiter. Chaque événement vise à rapprocher la photographie du public. C'est pourquoi il y aura une sorte de tour de ville autour du Bloc M, soutenu par un bon système de transport. En tant qu'événement international, il présente des personnalités mondiales dans le domaine de la photographie, entre autres Kimberly de la Cruz, Gaia Squarcy, Brendan Emser, Tandas Kazakevicius, Ike Bengtia, Gerald van der Kap, Hajime Kimura, Ranita Roy et Pierre Jérôme Joël. Les invités participeront à diverses activités, entre autres des talk-shows, des ateliers et de la présentation de leurs meilleures œuvres. Pendant les 17 jours de l'événement, 16 programmes et 72 événements rempliront le Festival international de photo de Jakarta 2023. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersaya. Itu kamu di dalam hatiku, kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga di jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada besar.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement. Dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée « Setia Menunggumu » chantée par Fabio Asher accompagné de Gempo Gendes. La chanson d'un musicien indonésien de Kota Mobagu, Sulawesi du Nord, à savoir Fabio Asher, a été sortie le 2 janvier 2023. Créée par Fabio Asher, Trakas et Yafi Arya. La chanson « Setia Menunggumu » raconte des sentiments blessés de quelqu'un à cause de l'amour non réciproque. Non seulement il a été rejeté, mais la personne qu'il aimait, elle aime quelqu'un d'autre. Mais il espère toujours que son amour sera accepté un jour, ce qui est décrit dans les paroles de la chanson, à savoir « Setia Menunggumu » en français « T'attends fidèlement ». Bon, chers auditeurs, voici Fabio Asher avec Gempo Gendes, dont le titre est « Setia Menunggumu ». Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
demi hari, sadar ku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.